Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Florent Layani. La gourmandise ce matin est une ingénieuse affirmation inventée par Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathoustra qui, sous des dehors magnanimes, peut aussi nuire violemment et c'est en cela qu'elle est puissante, étant généreuse ou diabolique selon l'usage. À un ami qui vous fait du mal, il est conseillé de répondre « Je te pardonne ce que tu m'as fait, mais que tu te le sois fait à toi, comment saurais-je pardonner cela ?» Caluire et cuire, commune de la métropole de Lyon, tout en allitération et en assonance, assiste, bien après l'arrestation de Jean Moulin, à l'enfance de notre apothicaire de l'âme. Dès la maternelle, cette dernière déclame des poèmes et des nouvelles de son cru à ses camarades. Musicienne précoce, elle s'initie au solfège à 6 ans, rejoint un chœur d'enfants à 7 et découvre le violoncelle à 8. Sa première chanson sera inspirée par le deuil de son lapin. À seulement quelques années d'existence, elle est déjà obsédée par le temps qui passe. Au collège, elle reçoit un surnom de fruit qu'elle gardera pour sa carrière musicale. Elle s'initie à la composition de façon autodidacte, publie des vidéos en ligne, absorbe la mélomanie de ses parents et de leurs amis. À 19 ans, elle s'installe à Paris, abandonne une fac d'anglais et contre toute attente, s'épanouit. Elle sort un EP suivi d'un album intitulé à peu près, avec lequel elle a aujourd'hui des rapports ambigus. Hypersensible, anxieuse, elle n'hésite pas à montrer sa vulnérabilité et confie abriter en elle l'apocalypse. 2020 consacre celle qui trouve que ses premières chansons ressemblaient à du Dolly Parton en nul, je cite ces mots, son album Les Failles, doux exorcisme de spleen et sacré album révélation de l'année aux Victoires de la Musique en février dernier. Il s'enrichit de 5 morceaux et s'appelle désormais Les Failles Cachées. Bonjour Pomme.
Bonjour.
C'est la première chose que vous m'ayez dite en arrivant, Pomme. Je suis très mélancolique et donc ravie de faire cette émission. Première question, quel est votre rapport à la mélancolie ?
Ben, j'avoue que depuis que je suis enfant, j'ai cette espèce de mélancolie permanente qui m'inspire aussi des chansons, donc qui est dans laquelle je ne me noie pas, mais qui me permet de créer depuis toujours en fait. J'ai toujours eu une sensibilité particulière avec beaucoup de tristesse, mais jamais dans un truc grave. Et donc je crois que c'est ça qu'on appelle la mélancolie et aussi beaucoup de nostalgie très jeune. J'avais pas envie de grandir et je me disais déjà que je regrettais l'enfance jeune déjà.
Pendant l'enfance.
Oui, à 15 ans, je me trouvais, j'avais envie d'être enfant, j'avais envie de plus grandir à 15 ans. Donc il y a cette espèce de nostalgie aussi un peu. Je suis souvent nostalgique d'avant, mais en même temps ça n'a pas de sens parce que Je suis nostalgique d'avant, mais je crois que je m'améliore en grandissant. Donc, ça n'a pas vraiment de sens.
Parce qu'il y a deux choses qui frappent, Pomme, quand on lit vos interviews. C'est qu'avant, c'était pas forcément mieux, puisque vous dites « j'ai toujours été celle qui posait des problèmes, même si je n'ai jamais trop bien compris pourquoi. À 6 ans, mes parents m'ont emmené chez un psy, je l'ai vu pendant plusieurs années. Consulter m'a donné l'impression d'être le mouton noir de la famille. » Et vous dites aussi « j'ai longtemps eu le sentiment de me sentir bien dans ma peau, jusqu'au moment où j'ai réalisé que je ne l'étais pas tant que ça, une fois quitté l'égocentrisme superficiel de l'adolescence, où l'on se satisfait d'appartenir au catalogue des belles gosses sur Facebook, devenir adulte n'a rien d'anodin. Et dans mon cas, ça a été la dégringolade.
Ouais, c'est vrai. En fait, je suis partie de la maison jeune et voilà, je me suis un peu désolidarisée du cocon familial, tandis que mes frères et sœurs sont restés. Et voilà, ouais, j'ai toujours eu cette sensation d'être un petit peu en dehors des choses, en dehors de ma génération. Je me sentais toujours un petit peu à côté. Et je pense que c'est de là que venait cette mélancolie. J'avais l'impression d'être un peu inadéquate. Aujourd'hui, c'est moins le cas parce que j'ai l'impression d'avoir trouvé ma place d'une certaine manière dans ce milieu artistique et avec la musique que je fais, etc. Mais il y a toujours ce truc où j'ai l'impression d'être tout le temps un peu à côté de la plaque.
Mais vous êtes très précoce, Pomme, et là, vous avez fait un deuxième album. Quand je disais que vous aviez des rapports ambigus avec le premier, c'est parce que le premier, justement, les autres ont trop essayé de mettre leurs pattes. Et là, vous avez enfin assumé quelque chose qui vous ressemblait. Et il faut quand même une certaine forme d'acceptation de soi pour se faire confiance, comme
oui,
ça.
Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je dis que ça n'a pas de sens que je sois nostalgique d'avant, parce que je me trouve toujours... Je regarde des photos de moi il y a 5 ans et je me dis « Ah, mais t'étais beaucoup plus belle il y a 5 ans », sauf que... Dans le présent, je me trouve jamais belle. Donc, ça n'a pas de sens. Par exemple, je peux pas me trouver belle il y a 5 ans, alors qu'il y a 5 ans, au moment où j'ai pris cette photo, je me sentais pas bien dans ma peau. Donc, en fait, c'est une espèce de quête permanente de confiance en soi. Mais je crois que je commence à accepter qu'on peut évoluer dans la vie et aller bien sans avoir forcément très confiance en soi. Et la confiance en soi, ça veut tout et rien dire. Et effectivement, j'en ai eu assez, clairement, pour dire, voilà, je fais mon deuxième album toute seule. J'écris, je compose, j'arrange mes chansons. Et quelque part, ça demande une certaine confiance en soi. Donc oui, je pense qu'elle est là et qu'elle est un petit peu... elle vient, elle va et elle vient, quoi.
Vous avez été accompagnée, je crois, pour le dernier album par Albin de la Simone.
Oui.
Qui vous a aidé pour le minimalisme que vous vouliez atteindre. Et il y a une chanson qui s'appelle Anxiété.
Oui.
Vous êtes d'un caractère très anxieux.
Oui, mais ça se voit pas. Du coup, les gens, ils me croient pas quand je dis que je suis anxieuse, j'ai pas confiance en moi. Les gens, ils me disent « Ah bon, mais pourtant, t'as l'air sûre de toi et tout. » Et il y a ce truc-là de... Justement, dans anxiété, je dis je suis celle qu'on ne voit pas parce que les gens anxieux, parfois on voit qu'ils sont anxieux parce qu'il y a des choses physiques qui se voient, mais parfois ça se voit pas. Et moi, c'est comme un état un petit peu permanent. Je me réveille quasiment tous les matins avec un peu un sentiment d'oppression dans le plexus solaire, mais je suis habituée en fait. Et je transforme cette anxiété, cette mélancolie en plein de choses chouettes. Mais oui, j'ai trouvé comment ça s'appelait parce que j'ai fait des recherches et j'ai trouvé qu'il y avait une anxiété qui s'appelle l'anxiété de performance. Et c'est toujours le sentiment d'être jamais assez en fait et de devoir toujours faire mieux, de pas avoir droit à l'erreur. Et c'est vrai que je suis assez contrôlante, enfin control freak, comme on dit en anglais. Je sais pas trop comment on dit en français. Mais je lâche pas facilement prise, quoi. Et voilà, j'ai cette espèce d'impression qu'il faut que je sois toujours, que tout soit dans l'ordre tout le temps. Et parfois c'est un peu fatigant.
Pour soi surtout.
Oui.
Bon, j'annonce le sommaire des réjouissances.
Oui.
Pomme, vous allez convoquer. Quoi ? Beaucoup de choses. Le voyage de Chihiro,
oui.
Ça c'est vraiment, je suis ravie. L'instinct, les chiens, les Beach Boys, Céline Dion, des mini-maisons, des bandes dessinées, du fair-play littéraire, du lait d'avoine, des fleurs et du caramel symétrique. Juste après l'un de vos titres, le morceau grandiose sur l'album Les Failles Cachées.
Depuis que je n'ai pas le droit, je veux du terre parfois, l'envie si grande et menaçante. Depuis que mes amis me mentent, qu'ils disent que je suis comme les autres, je veux un enfant dans le ventre, qu'on s'aime, qu'on ait une vie grandiose. Je veux un enfant dans le ventre, du terre parfois, l'envie si grande et menaçante. Depuis les cloches assourdissantes, le gris de l'église de fond rose, je veux un enfant dans le ventre, qu'on s'aime, qu'on ait une vie grandiose, grandiose.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Pommes et de Fantômes.
Chihiro. Chihiro. Bonsoir, d'ailleurs.
Yappari, inakane. Kaimono wa tonari machi ni iku shika nasasou ne.
Sunde miyako ni suru shika nai sa. Hora, are wa shougakkou da yo. Chihiro, atarashii gakkou da yo.
Kekkou kirei na gakkou janai.
いいもん。あ、ああ、お母さん、お話折れてっちゃった。
あなたずっと握りしめてるんだもの。お家に着いたら水切りすれば大丈夫よ。
2001, l'un des plus grands succès du cinéma japonais, le film d'animation Le Voyage de Chihiro de Miyazaki. Alors là, on entend une scène, c'est la première scène mélancolique du film, parce que c'est un film très mélancolique, où Chihiro, une petite fille d'à peu près 10 ans, est dans la voiture avec ses parents, il déménage et elle a un bouquet de fleurs que ses camarades d'école lui ont offert. Il est déjà en train de se faner, donc c'est la mort et la finitude des choses. Il paraît, Pomme, que vous avez chez vous un hôtel à la gloire de Chihiro.
J'ai tout ce qui est dérivé du voyage de Chihiro chez moi. Et je me souviens, il y a quelques années, quand j'ai commencé à faire des concerts avec un peu plus de moyens et tout, j'avais des espèces d'images de Chihiro partout sur ma scénographie. C'est un peu ma déesse, quoi, Chihiro. C'est un peu mon inspiration principale dans la vie. C'est un film que j'ai vu très jeune. En fait, mes parents, enfin ma mère surtout, étaient anti-Disney. Et donc on n'avait pas le droit de regarder Disney et on regardait par contre tous les films de Miyazaki et il y avait cette, je pense derrière la tête de ma mère, il y avait cette idée d'avoir des inspirations et de grandir avec des images de petites filles indépendantes un peu et qui se débrouillent dans les histoires en question et j'ai redécouvert ce film. C'est un film que j'ai vu enfant mais qui m'a accompagnée à l'âge adulte, parce que c'est un film qui se lit avec plusieurs couches et sous-couches et avec beaucoup, beaucoup de symbolique. Donc oui, j'ai beaucoup d'objets chez moi qui sont en lien avec Chihiro.
Mais c'est vrai que Miyazaki a inventé de puissantes héroïnes. Il y a Kiki la petite sorcière, il y a la princesse Mononoke,
ouais.
Il y a Chihiro. Et en fait, je me faisais la réflexion, bon là, de plus en plus, heureusement avec les enjeux actuels, il y a de plus en plus d'héroïnes vraiment belles dans le cinéma, mais c'est pas si répandu encore.
Non.
Et en fait, les endroits où elles sont le plus répandues, c'est finalement les films d'animation et les films d'horreur, parce que je repensais aux Griffes de la Nuit de Wes Craven, donc Freddy, vous savez,
oui.
C'est une petite héroïne. Et moi, c'est mon inspiration.
Ah.
Parce qu'elle se débrouille toute seule, tout le monde l'abandonne et elle peut compter que sur elle. Elle est incroyablement courageuse, comme Chihiro.
Oui, oui, c'est vrai, c'est très rare. Et en fait, mine de rien, c'est hyper important dans la construction. Enfin, voilà, on est tous influencés par des images qu'on a vues, des films, de la culture, en fait, ce qui nous a nourris quand on a grandi. Et c'est vrai que même si Disney, ça a nourri énormément de gens, c'est pas forcément des belles représentations des femmes en général.
Pomme, vous avez choisi Le Voyage de Chihiro et c'est un voyage initiatique donc d'une petite fille qui rentre dans une ville fantôme. Ses parents sont arrêtés à l'entrée de la ville parce qu'ils se précipitent sur un buffet et sont transformés en cochons.
En cochon.
Et elle va essayer de les sauver. Et c'est un film qui est très beau parce que bon, il est très poétique, il est mélancolique, il est drôle et il y a une cruauté aussi. Je veux dire déjà, bon, la petite... Personne ne l'épargne.
Non.
Elle devient transparente.
Oui.
Enfin, tout est.
Oui,
vraiment
c'est terrible. C'est un peu violent. Il y a quelque chose de. C'est pour ça que je dis que c'est un film aussi pour les adultes parce qu'il y a quelque chose d'un peu effrayant. Mais d'ailleurs, dans tout l'univers de Miyazaki, il y a toujours un petit peu des choses presque glauques en fait.
Oui, mais c'est monstrueux, c'est sordide.
Ouais.
Il y a des scènes difficiles même à supporter visuellement.
Ouais, c'est vrai.
Et il y a un des monstres les plus ambigus de l'histoire du cinéma, qui est le sans-visage.
Oui.
Qui, en fait, a l'air très gentil.
Oui.
Mais propose de l'argent aux gens en faisant... oui. Et les gens le prennent et ils les avalent avec
oui.
son ventre.
Il y a une espèce d'ouverture dans son corps, mais il est incroyable, ce personnage, il est trop bizarre. Et en fait, à la fin, on se rend compte qu'il a englouti une grosse partie du village, quoi. Dont un esprit de la rivière. Enfin, en fait, j'ai lu aussi sur le voyage de Chihiro qu'il y avait énormément de personnages qui étaient inspirés de la culture japonaise, avec des monstres. Shinto. Voilà, exactement. Et donc, il y a beaucoup apparemment de monstres dans ce film qui existent vraiment, quoi. Et c'est ça qui est fascinant, le Japon. Enfin, après, voilà, c'est aussi le Japon en général et la culture nippone qui est fascinante.
Pomme, comme remède, il y a le cinéma en général. Est-ce que vous visionnez beaucoup de films chez vous ? Est-ce que vous allez encore au cinéma malgré le port du masque ? Parce que c'est quand même difficile de rester une heure et demie.
Je vais au cinéma. Ouais. Parce que j'ai un cinéma en bas de chez moi. Pour moi, le cinéma, c'est aller au cinéma, quoi. Genre, je regarde pas vraiment de films chez moi. Au contraire, ça me rend triste de regarder un film sur mon ordinateur. Et en fait, depuis le Covid, il y a presque personne qui va au cinéma. Donc, en général, on est trois dans la salle et donc il n'y a pas beaucoup de risques. Et je garde mon masque. Moi, le masque, ça me dérange pas. Mais je vais très régulièrement au cinéma. Une fois par semaine, j'ai la carte par mois. Du coup, il faut que j'y aille le maximum pour rentabiliser ma carte.
C'est bien, bravo, vous soutenez l'économie.
Oui.
Pomme, vous aviez aussi choisi Nos jours heureux d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Et c'est une scène en particulier, ça se passe dans une colonie de vacances. C'est Caroline, l'animatrice dépressive, qui est incarnée par Joséphine Demeau.
Oui.
Qui hurle.
Mais c'est tellement drôle. C'est vraiment un film qui rassemble toute ma génération. Et cette phrase, on se sort les doigts du cul, elle est mythique. Et elle est utilisée régulièrement dans plein de situations. Et tout le monde autour de moi qui a entre 20 et 25 ans connaît ce film, connaît cette phrase. Et c'est vraiment un film drôle et qui vieillit pas, je trouve. Je le re-regarde et je le trouve toujours aussi drôle.
Moi, je pourrais être votre grand-père, mais je connais ce film aussi.
Bonjour, chien. J'avise un chien dans la rue et je lui dis « Bonjour chien, comment vas-tu » Croyez-vous qu'il me répondrait ? Non, et pourtant il me répond. Il me répond quand même. Alors quand je vois des gens qui marchent dans la rue et qui ne font même pas attention aux chiens, j'ai honte pour eux. Pour eux et pour leurs parents, et pour les parents de leurs parents. Parce qu'une si mauvaise éducation, ça mérite, et je ne suis pas généreux, 3 générations de syphilis héréditaire.
Jean-Louis Trintignant récite le texte de Boris Vian, Bonjour chien, c'est une pépite dénichée par la réalisatrice Eliane Girard. Introduction parfaite pour ce que vous affectionnez, Pomme. Caresser des chiens dans la rue, et je suis tellement heureuse que vous abordiez le sujet parce que moi je les suis comme quelqu'un de dérangé.
C'est vrai.
Et je pense qu'il y a des mains courantes de chiens déposées contre moi.
Des agressions.
Oui, c'est ça. Un MeToo des chiens.
Bah en fait, je suis obsédée par les chiens et plus particulièrement les Golden Retrievers, qui sont les labradors à poils longs, qui adorent les enfants et les ballons, et qui sont comme des humains en fait. Et donc j'en ai un maintenant en ma possession.
Comment s'appelle-t-il ?
Pizza Getty. Et oui. Et elle a 1 an. Ma passion pour les chiens, elle existe depuis toujours. J'avais des posters de Golden Retriever. J'avais également les magazines où on collait les images qu'on achetait au bureau de tabac.
Bien sûr, les albums Panini.
Albums Panini de chiens, toutes les races de chiens. Oh, donc je connais énormément de choses sur les chiens et tout. Je me souviens que tard quand même dans mon processus d'obsession des chiens, mes parents nous ont emmenés à la SPA. J'avais peut-être 12-13 ans, et donc on a eu notre chien Floppy, qui a 11 ans maintenant. Et voilà, j'ai toujours adoré les chiens, et j'ai même écrit, pendant le confinement, j'ai écrit une chanson pour mon chien. Enfin, je trouve ça incroyable, les chiens. Et dans la rue, par contre, maintenant, je pratique le contact avec les chiens, mais je demande au maître, parce que je me suis rendu compte en ayant un chien que les gens viennent, ils caressent ton chien, mais ils ne parlent pas à toi, et du coup, ça crée quand même un truc un peu bizarre.
C'est vrai. Il faut sensibiliser le public au consentement.
Ouais, demander
de
bonjour madame,
bords.
Est-ce que je peux caresser votre chien?
Bien sûr.
Et les gens sont contents en général. Et puis s'ils disent non, c'est qu'on les aime pas, quoi. Les gens qui refusent qu'on caresse leur chien, c'est pas ok, quoi.
Ouais, mais en même temps, en ce moment, avec la période, c'est vrai qu'on se dit que les mains sont sales et mettre sur les chiens.
Mais les chiens, ouais, je crois que la SPA fait une grande campagne justement parce que je crois que les animaux peuvent pas donner le Covid et du coup, il y a beaucoup de gens qui abandonnent leur chien à tort. Ouais. Et oui, il faut pas abandonner son chien. Jamais, comme des humains. Et il y a aussi un super film que je vous conseille qui s'appelle L'île aux chiens.
Oh, il est formidable. Avec une musique d'Alexandre Desplat, c'est merveilleux.
Bah oui, non, mais il y a plein de films sur les chiens, mais L'île aux chiens, il est vraiment beau.
Ah ouais, il est formidable. Pomme, dans les idées qui vous consolent, il y a l'idée de suivre son instinct. Et est-ce que vous confirmez le fait que souvent le la première intuition est la bonne, hélas même parfois.
Bah oui, en fait j'ai appris à écouter mon intuition beaucoup, je me suis beaucoup entraînée sur cet album, ce deuxième album, Les Failles, parce que justement j'avais cette envie de faire vraiment à ma manière et de le faire de la manière la plus honnête possible. Et du coup, je me suis vachement isolée et c'est vrai que souvent, quand je me sens pas bien et que je suis un peu perdue, je m'isole et je réfléchis à ce dont j'ai vraiment envie. Et voilà, et c'est retrouver cet instinct et cette idée de savoir ce qu'on veut vraiment. En général, dans mon cas, en tout cas, c'est plus facile quand personne me donne son avis, quoi. Mais oui, je crois au fait que l'instinct, le premier instinct, c'est souvent le bon instinct.
Vous dites aussi, Pomme, croire à la puissance des éléments et de la nature, la lune. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vérifié empiriquement ou la poésie de l'idée suffit ? Je précise pour les auditeurs que là, je suis face à vous. Oui. Vous avez une petite boucle d'oreille avec une lune et aussi un collier avec une lune.
Oui, c'est vrai. J'ai toujours été fascinée par la lune. Alors, à la base, c'était vraiment symbolique. C'était, je pense, cette idée de la puissance de la lune et toute cette atmosphère de sorcellerie et tout, parce que j'ai aussi été biberonnée à Charmed. La série Charmed, et puis Harry Potter, et puis...
Et plus récemment par Mona Chollet.
Voilà.
Sorcière, la puissance invaincue des femmes. C'est à cause d'elle que vous teignez une petite mèche.
Alors, c'est plus compliqué que ça. Moi, j'ai du vitiligo, donc c'est la maladie auto-immune qui désinfecte. Je suis tellement obsédée par le gel hydroalcoolique qui dépigmente la peau. Et en fait, du coup, j'ai des vrais cheveux blancs dans les cheveux depuis que j'ai 19 ans. Et je me souviens d'être allée chez le coiffeur et que ma coiffeuse me hurle, quoi, en me disant oh, « t'as des cheveux blancs » et tout. Et du coup, au début, je trouvais pas ça cool. Et puis, c'est après avoir lu le livre de Mona que je me suis rendu compte que c'était cool. Et que, surtout, en fait, il y avait beaucoup de femmes à l'époque des chasses aux sorcières qui étaient brûlées parce qu'elles avaient des taches de vitiligo, parce que c'était considéré comme des taches de sorcières. Et donc elles étaient rasées parce que les gens qui faisaient les procès de sorcières, ils cherchaient la tache de la sorcière partout. Et donc notamment aussi sur le crâne, et donc ils rasaient. Et moi j'ai cette tache-là et du coup je sais pas, ça m'a un petit peu perturbée. Je me suis dit ok, et du coup j'en ai fait une autre, j'en ai fait une plus visible dans ma frange, je pense comme une affirmation un peu.
Pour revenir à justement l'intuition, la nature et tout ça. Vous dites, Pomme, vous êtes rendu compte après coup que votre chanson Les Séquoias, en fait, était vraiment sur les enjeux écologiques. Enfin, c'était sur l'écologie, mais vous n'étiez pas rendu compte de cela en la composant.
Non, en fait, c'est la première chanson que j'ai composée dans ma résidence d'écriture pour cet album en janvier 2018 en Bourgogne, et il y avait une allée de séquoias, ce qui est assez rare en France. Et donc j'ai composé cette chanson qui, à ce moment-là, parlait plus de se retrouver seule avec soi-même et de retrouver une certaine paix intérieure et tout. Parce qu'à ce moment-là, je venais de vivre ma première vraie rupture amoureuse, donc j'étais pas forcément hyper en paix. Et en fait, après, en la chantant sur scène, en relisant en fait le texte, j'utilise quand même des termes un peu apocalyptiques, quoi. Je dis avant les arbres assassinés, avant la rivière asséchée, avant que tout soit emporté, etc. Donc je me suis rendu compte que j'avais une certaine anxiété par rapport à ça, une éco-anxiété même qu'on dit maintenant, et que c'était pas volontaire, mais que voilà, comme mes chansons parlent de ce qui me préoccupe et de mes angoisses, ben ça parle un peu de ça aussi en sous-jacent, on dit ça, oui.
De façon sous-jacente. Pomme, je sais que plusieurs membres de votre famille ont été candidats en 2014 ou en 2020 sur la liste Parti Socialiste Europe Écologie Les Verts.
Oui.
C'est ce que vous votez aussi. Dites dans les interviews, c'est pour ça que je me permets de...
Oui. Ouais, ma petite sœur et ma mère.
Et je sais que vous êtes très impliquée justement dans ces thématiques. Et comment est-ce qu'on fait quand... Je le dis parce que je connais la réponse, c'est pour ça. Quand on a un bilan carbone un peu terrible entre Paris, Lyon et Montréal.
Bah, il y a plein de solutions, mais la solution la plus concrète, même si on est d'accord que ça remplacera jamais le fait de pas polluer et de rester chez soi quand on peut ne pas prendre l'avion à l'année, on peut compenser en donnant de l'argent à des associations.
Ce que vous faites.
Ce que je fais, ouais. Et en fait, il y a des sites où on peut calculer son empreinte carbone et donner une somme qui équivaut à peu près à cette empreinte à des associations, mais après j'essaye de faire aussi plein d'autres choses plus concrètes, comme imprimer tous mes albums sur du papier recyclé, tout ce que je produis est fait sur du papier recyclé. Voilà, il y a plein d'autres choses que je mets en place, mais c'est vrai que quand on est artiste et qu'on voyage, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de solutions concrètes, à part symboliquement pallier à cette empreinte carbone, quoi.
Je vais les routes et je vais les frontières.
Dans les chansons qui vous empêchent d'être triste, Pomme, on trouve ce titre de 1995, vous n'étiez pas née.
Non.
Destin de Céline Dion, tiré de l'album 2, écrit par Jean-Jacques Goldman. L'album francophone le plus vendu de l'histoire de la musique et le 15e album de Céline Dion. Je dis ça, c'est toujours impressionnant d'en faire autant. Et alors, en tant que détective privée prenant le spin en filature, j'ai remarqué cette phrase suspecte que je ne comprends pas entièrement. Je prends le blues aux signaux des répondeurs, je prends la peine aux aéroports.
Ah ouais, c'est vrai que c'est bizarre, mais les paroles de Céline Dion, moi je les invente en fait. Donc j'ai jamais lu, il y a des moments où je comprends pas trop et du coup parce qu'elle a cet accent un peu français international quoi, entre le québécois et le français. Bon, ça ressemble plus à du français, mais c'est vrai que je savais même pas que c'était ça les paroles. J'ai chanté n'importe quoi probablement toute ma vie sur cette chanson et j'ai beaucoup dansé sur cette chanson pendant le confinement en fait.
Ah oui?
Oui, cette chanson m'a fait danser, ce qui est très rare quand même dans la vie. Donc je considère que c'est un vrai bon remède à la mélancolie.
Alors, autre antidote musicale, Pomme, un morceau culte de 1966 qu'on va écouter, mais j'aimerais vous écouter vous d'abord à ce sujet, Wouldn't It Be Nice des Beach Boys.
Oui, c'est tellement la joie, cette chanson, c'est la joie et en même temps, ça parle d'une situation rêvée. Donc c'est un peu mes chansons préférées, quoi. C'est la joie sous les cocotiers, c'est ce serait la joie, ça.
Et l'ailleurs, la nostalgie.
Voilà. Et du coup, il y a cette. Mais moi, ça me rend hyper heureuse. Mais j'aime bien être heureuse en étant mélancolique, je crois.
Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Pomme qui s'apprête à nous révéler que les constructions de mini-maisons la mettent en joie. Comment ça vous est venu? Qu'est-ce que vous utilisez pour les construire? Y a-t-il des chiens miniatures dedans?
Ah mon Dieu, ça serait incroyable. J'ai jamais construit de chiens miniatures, mais ça vient de me donner une idée joyeuse que je mettrai en œuvre bientôt. En fait, j'ai toujours adoré les miniatures, je ne sais pas pourquoi. Les maisons de poupées, tout ce qui est tout petit. Et quand je suis allée au Japon il y a 2 ans maintenant...
Vous faites du japonais, vous m'avez dit
oui.
Ça hors antenne.
Bah, depuis que je suis allée au Japon faire un concert à Tokyo pendant 3 jours et que j'ai été fascinée, et puis depuis Miyazaki et depuis tout ça, je me suis dit que peut-être j'allais apprendre la langue japonaise pour pouvoir mieux comprendre cette culture qui est pas facile à comprendre et qui finalement ouais, et en fait les Japonais ils parlent pas vraiment anglais, ils parlent pas français, donc j'avais envie de comprendre et d'apprendre la langue. Et donc quand je suis allée au Japon, je suis allée dans des magasins de jouets japonais et il y a énormément de kits pour faire des miniatures et moi je savais même pas que ça existait. Et donc j'étais en transe et j'en ai acheté mes 1000 et des kits pour faire des scènes miniatures de Miyazaki par exemple.
Wow.
Et donc j'en ai ramené chez moi et c'est des kits avec il y a tout ce qu'il faut quoi. Il y a tout, il y a du papier, il y a des petites matières, du bois, il y a des petits pinceaux, de la colle et je peux faire ça le dimanche pour ne pas être triste pendant 4 heures d'affilée quoi.
En écoutant Remède à la mélancolie voilà. Évidemment. Alors, ça vous arrive aussi, Pomme, de boire un café au lait d'avoine avec un ami. Et c'est un sujet sérieux car un fait divers vient de tomber. Un Américain a été poignardé parce que un autre homme et lui se disputaient au sujet du meilleur lait. L'un disait c'est le lait entier, l'autre c'est le lait d'amande. Donc c'est un peu le moment grave de l'émission.
Oh mon Dieu.
Pourquoi le lait d'avoine ?
Le lait d'avoine parce que l'avoine, il y en a en France. Ça a une texture crémeuse, mais c'est incroyable. Moi, j'aimais beaucoup le lait de vache avant de devenir végétalienne. Je mange des œufs, comme je disais, un œuf à la coque tout à l'heure, mais pas de lait de vache. Et franchement, ça se rapproche fort du lait de vache en texture. Et dans le café, moi, je trouve que c'est la meilleure option, quoi. Le lait d'amande, il y a un truc un peu hétérogène. Il y a un truc pas bon. Moi, j'aime pas le lait d'amande. Je suis pas OK. Okay.
Voilà qui est dit.
Voilà qui est dit, ouais. Si j'avais dû participer à la...
Un débat présidentiel. Là, je pense que là, on vous aurait poignardé.
Bah oui.
Alors, je précise que vous, l'œuf à la coque, parce que les auditeurs vont pas l'entendre, c'était pendant les essais micro.
Oui.
Parce que je demande à mes invités, qu'avez-vous mangé ce matin au petit déjeuner pour qu'ils aient une inspiration?
Oui.
Sinon, ils vont penser qu'on leur...
On leur cache des choses. Non, je mange des œufs, mais à part ça, je suis végétalienne. Juste les œufs.
Et une fois que vous avez fait tout ça, des maisons, manger des œufs et bu du lait d'avoine, vous lisez des BD, Pommes notamment. Et alors là, vraiment, vous avez choisi tellement réconfortant que c'est une couette pour l'âme.
Oui.
Tulip, la série d'albums Tulip de Sophie Guérive qui sont édités, ces albums, aux éditions qui sont formidables, édition 2024. Je vous laisse nous en dire un petit mot.
Alors, j'ai découvert ces livres, ces BD, juste avant le confinement, via une amie illustratrice qui s'appelle Pyjama. Et en fait, j'ai commencé à en lire une et j'ai trouvé ça addictif. Et du coup, je les ai toutes achetées et je les ai consommées ardemment pendant le confinement. Et ça m'a vachement aidée à me déconnecter un peu parfois des angoisses que je pouvais ressentir par rapport à la situation. Et en fait, ça ressemble à des BD pour enfants, un petit peu, dans les dessins. Et puis quand on lit en fait les textes, on se rend compte que c'est hyper profond, hyper philosophique. Et ça met des mots sur parfois des sensations qu'on ressent. Justement, il y a beaucoup de choses sur l'anxiété, sur le temps qui passe, sur l'ego et tout. Et c'est, je trouve que c'est... J'ai jamais vu en fait une manière de parler de ces sujets-là aussi légère et aussi agréable, quoi.
Et douce.
Oui.
Ouais, Tulip de Sophie Guérive, vraiment à lire.
Mother sat working at her table, Tove beside her, and Tove had pen and paper, and Tove looked at what mother was doing, and then she made her own drawing. Tove developed her drawing technique when she saw mother creating postage stamps with narrow black lines on white paper.
Le documentaire Moomin Land Tales, The Life of Tove Jonsson, diffusé en 2012 sur la BBC. On entend le frère de l'artiste, le photographe Per Olof Jonsson, qui raconte que sa sœur s'installait à côté de sa mère lorsque celle-ci dessinait, notamment des dessins de timbre, et que ce sont ses dessins qui ont influencé son style à ses débuts. En France, on connaît surtout Tove Jonsson pour ses livres illustrés pour enfants, les Moomin. Mais vous avez choisi le solaire roman de la Finlandaise, paru en 1989, Fairplay. Comment l'avez-vous découvert, Pomme?
Alors j'ai découvert Tove, je veux dire Tove parce que en France on dit Tove, mais c'est Tove, c'est vrai. J'ai découvert via les BD de Pénélope Bagieu, Culottée, qui présente plein de femmes un petit peu justement oubliées ou pas assez connues par rapport à ce qu'elles ont fait dans l'histoire. Et dedans il y avait cette illustratrice qui, au-delà d'être une illustratrice pour enfants, est une écrivaine qui a écrit beaucoup sur sa vie et qui a eu une vie un petit peu en marge de la société à une époque où c'était pas forcément évident. Et en fait, j'ai lu un petit peu les Moomin et surtout j'ai lu, en fait, je viens de me rappeler pendant le confinement dans mon overdose de BD, j'ai lu une BD de Julie Delporte qui est une Française qui habite au Québec qui s'appelle Moi aussi je voulais l'emporter. Et en fait, c'est une BD à la base qui devait parler de Tove Jonsson. Et finalement, elle s'est rendue compte qu'elle avait tellement de points communs avec cette illustratrice écrivaine qu'elle a écrit une BD sur elle. Et donc, ça m'a redonné envie d'aller voir plus loin dans cette œuvre de cette illustratrice écrivaine. Et je me suis mis à lire aussi tous ses romans, dont ce roman Fairplay, qui parle de sa vie en fait.
Parce qu'elle vivait avec sa compagne,
oui,
sur une île.
Oui.
Et il y a quelque chose de très beau parce qu'il y a vraiment une légèreté et un ludique dans leur relation. Et je pense, par exemple, chaque chapitre est très court et pourrait être une petite nouvelle. Mmh. Et je pense à un moment où elles décrivent leur vie, où elles annulent un dîner au dernier moment parce qu'elles disent que Fassbinder va venir les voir, alors qu'en fait c'est juste une séance de projection de film chez,
oui,
elles.
Oui.
Mais c'est la visite de Fassbinder, oui, quoi. Donc on annule.
Oui, 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 c'est comme deux enfants et il y a quelque chose d'innocent, il y a quelque chose de léger. Et en fait, je trouve ça incroyable en fait d'écrire des livres comme ça dans ces années-là sur cette relation qu'elle a avec cette femme. Et en fait, c'est tellement normal et c'est tellement pas un sujet en fait que ça fait beaucoup de bien, je trouve, de lire des livres de femmes, voilà, qui ont vécu à des époques différentes de celles d'aujourd'hui où la parole était vachement moins libérée. Et en fait, juste, elle écrit un livre sur sa vie et elle vit avec une femme. Et effectivement, elle vit dans une maison où chacune a son indépendance et elles ont juste un petit espace commun dans le grenier où elles regardent des films ensemble le soir.
Et elles créent toutes sur plein de supports, c'est une vie de bohème, enfin, ça donne très très envie de vivre.
C'est deux artistes, ouais, c'est deux artistes qui vivent ensemble et en marge de la société et en même temps, ouais, franchement, moi j'aurais adoré rencontrer cette femme parce qu'elle avait l'air hyper, hyper intéressante. Et j'ai lu aussi plein d'autres livres. Il y a des livres sur ses vacances sur des îles finlandaises. Il y a L'art de voyager léger. Enfin, il y a plein de super beaux livres.
Nous convoquerons des fleurs juste après un titre de la playlist France Inter, Andrea Laszlo de Simone, La Nostra Fine.
Vivi per me, sì, però io non vivo più. È la nostra fine, è la nostra fine, è la nostra fine, questa è la nostra fine. Cos'è successo? Sai, la vita sceglie per noi, possiamo parlarne se vuoi, sì, ma la notte è giunta per noi.
Sur France Inter avec Pomme et le compositeur Rameau.
Extrait du ballet Les Indes Galantes de Rameau, plus précisément le ballet des fleurs, interprété par les solistes Le Chœur et la Symphonie du Marais, dirigé par Hugo Rennes. Pomme, nous vous avons demandé de nous indiquer un tableau, un peintre ou une œuvre d'art qui vous réjouissait et vous avez eu cette jolie réponse. Les fleurs en général, est-ce que vous en cultivez, en achetez, en ramassez? Vous les contemplez, vous leur parlez? Je veux tout savoir.
J'adore les plantes, j'adore les fleurs. J'achète pas souvent des fleurs chez le fleuriste, mais j'avais fait, il y a quelques années, dans mon merchandising, donc les produits dérivés de ma musique, j'avais fait des cartes à planter, donc c'était des cartes avec des petites graines dedans, et c'était des fleurs des champs, et les gens m'envoyaient des photos, et je trouvais ça trop chouette, ils achetaient des petites cartes à planter à la fin du concert, et ils plantaient des fleurs chez eux. J'ai une passion pour les fleurs, les plantes, la végétation en général. J'ai aussi beaucoup cultivé à Paris, des légumes, sur mon balcon, enfin même pas mon balcon, mes fenêtres, quoi. Les tomates, des radis, des salades, j'aime beaucoup les plantes.
Est-ce que vous leur parlez? Il paraît qu'il faut parler aux fleurs.
Alors, je leur parle, mais surtout, je leur mets la musique des plantes, qui est l'album Plantasia, qui est un album des années 60 d'une personne qui a décidé d'écrire de la musique pour les plantes. Et Plantasia, c'est un album qu'il faut mettre à ses plantes pour faire pousser ses plantes plus vite. Et oui, je leur parle. Mais c'est vrai que quand je leur parle, j'ai un peu l'impression d'aller mal, quoi. Je leur dis... Non, en fait, je leur parle quand je pars de très longues périodes, je leur dis ça va être OK, quoi. Genre, il y a des gens qui vont venir s'occuper de vous. Et j'ai mon ami qui est mon voisin aussi qui vient et qui leur chante des chansons. Je crois que lui, il leur parle plus que moi, en fait.
Ancienne réclame pour les friandises inventée le 2 janvier 1954 à Marc en Barœul par Monsieur Fauchille dans une usine de chocolat qui, après une étude menée auprès d'enfants, a estimé que ceux-ci aimeraient les bonbons au caramel de forme allongée. Pomme, vous avez choisi les carambars au caramel comme remède.
Vraiment, j'ai que des rêves vieilles, quoi. On est sur vraiment des rêves qui sont que des rêves d'avant les années 50, quoi.
Carambars. Bah, pas vraiment, non, Chihiro.
Non, pas Giro, mais Tove Jansson, tout ça, ça me fait réaliser que je consomme beaucoup de choses du siècle d'avant.
Mais c'est bien?
Ouais, je sais pas.
Si, oui.
Mais les carambars, je trouve ça trop bon, les classiques, parce qu'après, il y a eu plein de saveurs inventées, genre goût Coca-Cola pétillant et tout ça, ça me dégoûte un peu. Mais tout ce qui est carambar au caramel de base.
Vous êtes radical,
pas. J'adore, c'est trop bon. Je trouve ça trop bon. Faut avoir des bonnes dents.
Oui.
Faut avoir des très bonnes dents. J'ai toujours peur un peu que ça m'arrache une dent. J'ai toujours peur de ressortir avec le carambar avec une dent dessus, genre.
On peut mettre le carambar à la place et on y voit que du feu.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
J'ai d'autres astuces. Pomme, vous avez choisi aussi comme remède encore deux choses, l'enfance et son innocence. Et ça m'étonne puisque quand on lit vos interviews, on ressent pas justement d'innocence, mais ça rejoint peut-être ce qu'on abordait en début d'émission. Vous avez une nostalgie finalement presque chimérique.
Ouais, j'ai une nostalgie de l'enfance. Oui, c'est ça, c'est que il y a une nostalgie de moments où j'étais triste, alors que quand je regarde ces moments-là, j'ai l'impression que j'étais mieux que dans le présent, donc il y a cette espèce de, oui, c'est pas la réalité, c'est vrai que c'est un peu une chimère. Et après, dans l'enfance, il y a ce truc, même si j'étais souvent triste et mélancolique, j'étais quand même un enfant, et donc, il y a ce truc de la découverte et de toujours être surpris, de toujours être émerveillé, et aussi dans l'enfance, il y a le droit à l'erreur aussi. Et ça, on parlait d'anxiété de performance et tout. Quand on est un enfant, on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des bêtises. Et c'est moins le cas quand on est un adulte quand même.
Ouais, c'est très juste, hélas. Pomme, Montréal. Oui. Vous dites dans une interview très jeune, j'ai eu un rapport conflictuel avec mon corps. Aller au Québec à 19 ans m'a aidé à déconstruire tout ça.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, le Québec, c'est un pays, enfin, c'est une province. Du Canada et où tout est un petit peu déconstruit. Enfin, en fait, c'est un pays jeune et il y a beaucoup moins de mœurs. Il y a beaucoup moins de cet héritage qu'on a chez nous des mœurs, de la tradition, de la religion et tout ça. Ils ont vachement plus rejeté ça et du coup, ils se fabriquent eux-mêmes en fait une normalité et ça ressemble à rien que je connaissais avant dans l'ouverture d'esprit, dans cette idée d'être qui on veut, d'être très libre. C'est un endroit qui m'a vachement apaisée et j'ai même écrit une chanson sur mon album Les Oiseaux qui parle de cet endroit.
Vous y allez souvent ?
Oui, j'y vais très souvent. J'ai comme une famille un petit peu choisie là-bas Et j'adore, en ce moment, c'est mon rêve d'être au Québec parce que l'automne, le mois d'octobre au Québec, c'est un des plus beaux trucs que j'ai jamais vu de ma vie. Les feuilles, elles ont des couleurs irréelles et il y a vachement de courges aussi au Québec.
Ah, mais ça, c'est une passion.
C'est une passion. Il y a une culture de la citrouille et donc avec une citrouille, ils font un repas entier, ils font une soupe, ils font une tarte à la citrouille sucrée, ils font du jus de citrouille pour mettre dans le café. Donc voilà.
Dans le café?
Dans le café, ouais, pour faire des pumpkin spice latte.
Wow.
C'est des cafés à la citrouille.
Ça sonne comme une menace.
Ça sonne un peu comme une menace, mais non, mais oui, il y a cette culture de, je sais pas, il y a une ouverture d'esprit et l'automne au Québec là en ce moment, c'est assez beau.
Pomme, merci beaucoup d'être venue nous confier vos remèdes dans cette émission. Je rappelle le titre de votre dernier album, Les Failles Cachées, c'est la version enrichie. Et vous serez, alors ça va être très frustrant, j'ai une info à donner, vous serez en concert à l'Olympia les 23 et 30 novembre prochains, mais c'est déjà complet,
oui.
Donc on le dit pour la frime.
On le dit pour la frime, oui. Mais il y en aura d'autres l'année prochaine aussi.
D'accord.
Oui.
Chers auditeurs, la programmation musicale, les remèdes sont comme toujours sur le site de l'émission, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. J'espère que vous êtes aussi rassurés sur votre rôle dans le monde qu'un frigo immortel. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10. Nous venons de soigner vos âmes, enfin je l'espère, et tout de suite, ce sont vos papilles qui seront mises entre de bonnes mains, celles de François-Régis Gaudry dans On va déguster.